un texto.
Ouais. Ouais, je te remercie.
Je suis au 101.
D'accord.
Je suis pas
non, mais il n'y a pas de raison. Y a pas de...
Non, non, aucune. Bonne soirée, travaillez bien.
Je te remercie.
Merci beaucoup.
Merci.
Bien. Quel.
Quel accueil.
À disposition des auditeurs.
Okay. Ah. Pascal, ah, voilà. Bonsoir Pascal.
Il faut qu'il y ait le père Patrick du Saint-Rosaire qui arrive également.
Il y a une base.
Alors, je vous propose de démarrer. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis ravi de vous retrouver, je crois, après. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Jérusalem. Pour pas mal d'entre nous. Je crois que pour l'ensemble des personnes qui ont eu la chance d'aller là-bas, c'était un moment vraiment extraordinaire que j'ai vécu comme tel. Je sais que quelques-uns d'entre vous c'était là aussi. Malheureusement, on apprend ce matin à la radio, à la télé, par les médias, un certain nombre de nouvelles catastrophiques qui ont d'ailleurs été annoncées par le consul de Jérusalem qu'on a rencontré. Alors voilà, c'est toujours assez douloureux, je trouve, de revenir d'un pays comme ça, aussi fantastique, avec il y a des choses aussi difficiles en ce moment, donc je vous propose d'avoir une petite pensée dans notre fort intérieur à toutes et à tous pour les gens qui vivent ces difficultés là-bas, et pour les gens qui sont en responsabilité dans des choses difficiles à gérer. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons tous pour une conférence classique de l'IHEMR, c'est la 12e.
Pas classique, Pascal.
On ne va pas parler de religion, on va parler d'autres choses que des religions, grâce à M. Courtade, qui nous fait l'honneur et le plaisir de nous rejoindre, que je vais introduire très rapidement. Donc le sujet, c'est Genèse et apport de la laïcité à la française. Il y a peut-être d'ailleurs quelque chose qui est pléonastique dans le terme laïcité à la française, il me semble. Très rapidement, hein, avant de présenter M. Courtade et de laisser la parole, sur les informations court terme, on se retrouve, je vous rappelle aussi, dimanche prochain à la Grande Mosquée de Paris. Voilà.
Quand ça ?
Dimanche prochain à la Grande Mosquée de Paris.
9h40.
9h40.
Donc c'est 2 bis du Puy de l'Évêque. Du Puy d'Hermite, pardon.
Voilà, et mardi, nous avons notre dernière conférence de la saison, non pas de la session, mais de la saison, mardi 8. Et a priori, ce sera au 104, que vous connaissez peut-être, hein, de Bruno Gérard. D'accord ? Bruno Vaugirard.
Ah, Vaugirard ?
Ouais. C'est pas très loin de Rue de Sèvres, mais c'est Rue de Vaugirard. Ce sont 4 Rue de Sèvres. Rue de Vaugirard, effectivement. Voilà, avec Martin Lavotnin et Bernard Ibal sur les questions d'éthique et morale.
Et
les
relations
religieuses. Voilà, pour revenir à notre conférence du jour, on va commencer sans tarder. Donc, Genèse, la bienvenue de la laïcité à la française. Monsieur Pascal Courtade. Je fais une petite présentation très rapide, hein, mais vous êtes ingénieur de l'école navale, vous avez fait l'ENA en 2008, c'est ça, promotion Émile Zola. Vous avez un master de recherche en histoire. Et est-ce que vous pouvez nous dire quel était le thème d'ailleurs
de... C'était l'histoire de l'Orient latin, justement.
De l'Orient latin.
D'accord.
Dans la continuité de ce qu'on a vu à Jérusalem, on a rencontré le patriarche. Et donc, vous avez fait une carrière militaire dans un premier temps, en tant qu'officier, en seconde du patrouilleur de service, le Cormoran. Vous êtes ensuite, après l'ENA, rentré au ministère de l'Intérieur. Vous avez eu aussi une carrière de sous-préfet, une fonction de sous-préfet à la région Île-de-France, il y a ça. Et puis aujourd'hui, depuis 2013, vous êtes administrateur civil, chef du bureau central des cultes et la sous-direction des libertés publiques, qui est rattachée au ministère de l'Intérieur. Voilà. Le bureau central. centrale des cultes, selon les éléments que vous nous avez communiqués, et une activité en pleine expansion depuis quelques années, dans un contexte où effectivement la laïcité est réinterrogée, est requestionnée avec la réémergence de revendications religieuses qui font parfois partie du débat public. Et une mise en tension qui s'opère autour de ces questions. Voilà, donc il nous semblait extrêmement pertinent que vous puissiez assurer cette conférence sur la laïcité. Nous, on a un institut justement qui s'inscrit dans un. Qui pose un regard objectif sur les religions. Évidemment, la démarche laïque nous correspond parfaitement, puisque sans cela, il est impossible finalement d'avoir. Il nous semble impossible, très difficile d'avoir un dialogue apaisé. Et objectif entre religieux. Je vous en prie.
Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureux de parler devant vous. On n'avait pas eu encore l'occasion de se rencontrer, donc j'ai accepté bien volontiers votre proposition. Et, bon, le thème que vous m'avez donné n'est pas vraiment facile, hein, puisque vous me demandez de traiter en une heure, plus ou moins, un large pan de notre histoire et des sujets pas complètement évidents qui se posent effectivement au quotidien au bureau des cultes. Peut-être deux mots pour vous dire d'où je vous parle. Le bureau central des cultes est une institution ancienne qui est l'héritier direct de la direction générale des cultes qui existait au XIXe siècle. On est d'ailleurs toujours dans les mêmes bureaux. Qui à l'époque avait une vocation assez différente puisque c'était une sorte de DRH des ministres du culte, et donc on y préparait les mouvements d'évêques comme aujourd'hui on prépare les mouvements préfectoraux. Évidemment notre métier a un petit peu changé avec la loi de séparation, et donc le bureau des cultes est devenu un simple bureau en 1911. Et à partir de son travail habituel de contact avec les cultes, de réglementation aussi, des interfaces entre le fait religieux, qui a une réalité sociale, et donc par là même une interface juridique, administrative. Nous nous sommes préoccupés depuis quelques années des questions de laïcité. On s'en préoccupait depuis longtemps, puisque le bureau central des cultes est le bureau d'administration centrale chargé d'appliquer la loi de 1905. Mais des nouveaux questionnements qui ont émergé depuis une vingtaine d'années. Et puis en parallèle, et c'est bien naturel, nous sommes aussi pas mal occupés, nous nous occupons encore aujourd'hui, de l'islam de France. Voilà, donc je suis en poste depuis quelques mois. Donc c'est un thème très ambitieux que je vais essayer de traiter de façon relativement large. C'est un peu scolaire, mais j'ai préparé un plan détaillé. Je pense que ça vous permettra peut-être de mieux suivre tout ce que je vais essayer de vous raconter. Ce qu'il y avait un peu d'intimidant dans votre proposition, c'est le mot Genèse, évidemment, puisqu'il y a tout un tas de grandes plumes qui ont écrit sur l'histoire de la laïcité. Mais je vais quand même essayer de vous dire en quelques mots, c'est un avis largement personnel, hein, et de façon générale, aujourd'hui j'engage que moi, j'ai pas la prétention d'engager le ministre de l'Intérieur, mais voilà ce que peut vous dire un fonctionnaire qui traite au quotidien des questions religieuses et des questions de laïcité, puisque les deux sont indissociables, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, je vais essayer de vous partager ce point de vue. Et en général, tout bon exposé commence par la définition, les questions de définition. Et pour la laïcité, c'est un exercice assez difficile, puisque derrière ce mot, qui est un mot valise, comme le dit parfois Jean-Louis Bianco, le président de l'Observatoire de la laïcité, auprès duquel je représente le ministère de l'Intérieur, mot valise derrière lequel on peut mettre à la fois un principe philosophique, un principe de sciences politiques, mais aussi un principe juridique et un principe d'organisation des pouvoirs publics. Moi, donc c'est plus dans cette dernière acception que je vais situer mon propos. L'étymologie du mot laïque, vous la connaissez sans doute, hein, ça vient du grec laos, le peuple, et à l'origine c'était un adjectif, on parlait de laïque pour tout ce qui n'était pas relatif au clergé, mais la première utilisation du terme dans le sens qu'on lui connaît aujourd'hui, je pense que c'est les 1871, les débats autour de l'enseignement public, où on commence à évoquer un enseignement laïque, par opposition à l'enseignement religieux qui était la règle à l'époque. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il n'y a aucune définition universellement acceptée du mot laïcité. Moi, celle que je vous propose, c'est celle du Conseil d'État dans son rapport de 2004, lors du centenaire de la... lors du centenaire de la 1905, dans laquelle il distinguait trois éléments pour définir ce qu'était la laïcité, la neutralité de l'État, la liberté religieuse et le pluralisme. Une autre définition plus philosophique, celle-là, c'est celle de Paul Ricoeur, qui, dans un de ses derniers bouquins, « La critique et la conviction » de 2013, parlait de deux types de laïcité. Une laïcité d'abstention, d'une part. L'État reconnaît la liberté religieuse, mais est par lui-même a-religieux. Et une laïcité d'exclusion, qui renvoie le fait religieux à la sphère privée. Donc, on voit bien dans cette définition qu'il y a une tension. Une tension qui est assez présente dans le débat politique, mais sur laquelle, bien évidemment, moi, je n'ai rien à dire, puisque je vous parlerai plus de la laïcité comme principe d'organisation des pouvoirs publics. Donc, je le disais, liberté religieuse et neutralité de l'État sont complètement indissociables. Hein, c'est l'esprit même de la loi de 1905, de son article 1 et de son article 2. Tout le monde connaît l'article 2 et le cite à satiété. On oublie souvent de dire que l'article 1er garantit la liberté de religion, la liberté de culte, et tous les deux sont indissociables. Au-delà de la loi de 1905, qui par elle-même peut être amendée, hein, elle l'est très régulièrement, la laïcité a des fondements constitutionnels, dans la Constitution, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans celle du Conseil d'État. Mais encore aujourd'hui, la pierre angulaire de la laïcité à la française, eh bien, la loi de 1905, qui est une loi dans une large partie assez ennuyeuse, hein, parce que c'est une loi de divorce dans laquelle on organise la séparation des biens, qui va à quoi, qui fait quoi, mais qui, dans son socle initial, hein, les premiers articles, est vraiment ce qui aujourd'hui fait la laïcité à la française. Donc ce qui était compliqué, je vous l'ai dit, c'était de réfléchir un peu à la genèse de la laïcité, et c'est ce à quoi je vais m'atteler dans la première partie de mon exposé. Et puis dans les deux parties suivantes, j'essaierai un peu de parler de ce qu'a d'indissociable la garantie de la liberté religieuse par l'État et la neutralité des pouvoirs publics. Donc j'essaierai de balayer un petit peu tout un tas de problèmes qui se posent à nous, mais de problèmes mais aussi de solutions qui y sont apportées, parce que j'essaierai de vous montrer que, contrairement à ce qu'on peut penser, même si la loi de 1905 est une pierre angulaire, elle est aussi un système très souple, ce qu'a permis la jurisprudence du Conseil d'État, et qui permet de répondre à une grande partie des problèmes qui se posent aujourd'hui. Et puis dans une troisième partie, on parlera un petit peu des défis et des sujets actuels qu'on peut avoir à connaître au ministère de l'Intérieur. Alors sur la genèse de la laïcité à la française, qui était un peu pour moi l'exercice le plus difficile, parce que c'est pas très souvent qu'on demande de parler sur le sujet, bizarrement, ce qui se comprend aussi parce qu'il y a des voix beaucoup plus autorisées que les nôtres, hein, à l'université. Moi, ce qui me semble intéressant de souligner, c'est que la laïcité à la française n'a pas forcément commencé à la Révolution française, comme on peut souvent l'entendre. Mais encore une fois, je prétends pas avoir la vérité révélée sur le sujet. Je pense qu'on peut pas dissocier la laïcité à la française du gallicanisme. Vous savez qu'il y a cette relation très particulière qui a existé au fil des siècles entre le royaume de France et le Saint-Siège, qui est une histoire compliquée, mais qui remonte assez loin. Les historiens la font remonter au pape Gélase, donc 5e siècle, hein, fin du 5e siècle, qui rappelait dans un épître à l'empereur byzantin Anastase qu'il fallait séparer l'ordre spirituel et le pouvoir temporel. Bon, en même temps, il réinventait un petit peu l'évangile, d'une certaine façon, hein, rendre à César ce qui est à César. Mais c'est la première fois que dans l'histoire de l'Église que les termes du problème étaient posés avec des mots politiques, en fait. Et donc cette conception du pape Gélase de la séparation inaugure un petit peu une période de tension, hein, qui va durer à peu près tout le Moyen-Âge, entre le pape et l'empereur. Ça, c'est la querelle des investitures, mais plus largement entre le pape et les pouvoirs royaux ou impériaux, pour savoir un rapport de force dans lequel le Saint-Siège a essayé souvent de soumettre le pouvoir royal au pouvoir spirituel, ce qui est un peu ce que dit le pape Gélase dans son épître. En France, un des éléments fondateurs de notre histoire, c'est le baptême de Clovis, en 498, qui marque véritablement le début d'une France chrétienne. Pour Clovis, vous le savez, hein, il y a une visée politique hein, qui est d'unir le royaume sur une base commune, cette base commune étant la foi catholique. Et c'est la première fois où, évidemment, la question des relations entre la politique et la religion, le royaume et le Saint-Siège, qui, à l'époque, rappelez-vous, hein, n'est pas du tout le Saint-Siège qu'on connaît aujourd'hui. Hein, le pape n'est qu'un primus inter pares, rien de plus. Et le pouvoir pontifical n'a rien à voir avec celui qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est la première fois que la question se pose. Le deuxième épisode qui me paraît mériter votre attention, c'est Pépin le Bref, hein, qui, en 751, pour écarter le reliquat de la dynastie mérovingienne, fomente un espèce de coup d'État, hein, je pense qu'on dirait ça comme ça aujourd'hui, avec l'appui du pape. Et c'est là vraiment que commence cette relation très particulière entre le royaume et le Saint-Siège, et qui se poursuit avec Charlemagne, qui, vous le rappelez, est sacré en 1800 par le pape, ce qui est un peu une innovation à l'époque, hein, ça ne se faisait pas systématiquement comme ça. Et cette époque carolingienne, en fait, se caractérise, disent les historiens, par une emprise grandissante de l'empereur Charlemagne sur le Saint-Siège. Donc on est un peu à front renversé par rapport aux volontés initiales du pape Gélase. Mais cette mission protectrice de Charlemagne, en fait, s'achève à sa mort, tout bêtement, puisque le pouvoir éclate entre ses héritiers et différents seigneurs locaux. Et dans ce chaos qui suit la mort de... Enfin, ce chaos, c'est, le mot est un peu fort, hein, mais dans ce désordre qui suit la mort de Charlemagne, l'Église apparaît souvent, comme elle a pu apparaître au cours des invasions barbares, comme une des seules institutions un peu constituées, un peu solides. Et ce qui est marrant, c'est que ça a encore des échos aujourd'hui. Je me rappelle du temps où j'étais marin, on était intervenu au Timor oriental. Et au Timor oriental, où il régnait un chaos pas possible hein, pour des raisons tribales, bah l'interlocuteur le plus valable que pouvait trouver la France, mais aussi le temps pourvu, c'était l'évêque, en fait. C'est un lointain écho à cette période-là. Donc cette période un peu de délitement du pouvoir royal à l'issue de la mort de Charlemagne, en fait, permet au Saint-Siège de se retrouver en position de force, mais il y a une opposition très forte qui se fait connaître à partir de Philippe le Bel, qui essaie d'autonomiser le pouvoir royal de l'emprise du Saint-Siège. En 1295, il fait lever un impôt sur le clergé qui est condamné fermement par le pape. Et puis il y a toute la querelle des antipapes, hein, dont vous vous rappelez, qui est un peu à resituer dans ce cadre-là. La première manifestation du gallicanisme par lui-même, c'est sans doute ce qu'on a appelé la pragmatique sanction de Bourges, de Charles VII, donc 1438. En 1438, le roi affirme les évêques rassemblés en concile affirment leur supériorité sur le souverain pontife. Et ils entérinent la nomination des évêques et des abbés par le roi. Ce qui est une manifestation de défiance très forte vis-à-vis du Saint-Siège. Et par cet acte, l'Église de France s'affranchit du Saint-Siège. Ceci dit, je pense que la véritable pierre angulaire pré-révolutionnaire de l'émancipation du Royaume de France et de l'État vis-à-vis du Saint-Siège, c'est l'édit de Nantes, évidemment, promulgué en 1598 par Henri IV, qui affirme la liberté de conscience et l'égalité civique. Et pour la première fois, en fait, se crée, par cet édit, une sphère publique qui n'est pas confessionnelle. Et donc cet entre-là, entre le social, le religieux, le politique que connaît la France depuis 498 et le baptême de Clovis, est pour la première fois remise en cause. Ça me paraît donc que 1498 me paraît vraiment une pierre importante sur le chemin vers la laïcité à la française. Donc vous vous rappelez que Louis XIV peut-être a réaffirmé le gallicanisme dans la déclaration des quatre articles que Bossuet avait rédigé en 1682. Et ce qui est amusant, c'est qu'encore aujourd'hui, dans les relations entre les catholiques de France et l'Église de France, on voit les traces de ce gallicanisme, mais de façon très quotidienne, hein, moi, dans des dossiers que je peux avoir à l'esprit. Et donc cette relation particulière entre le Royaume de France et le Saint-Siège, pour moi, a préparé un petit peu, d'une certaine façon, la rupture révolutionnaire. Alors la séparation de l'Église et de l'État a été un peu initiée avant 1905 hein, par la rupture révolutionnaire, par l'article 10 notamment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui déclare que nul homme ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Et dès lors, le citoyen se voit reconnaître le droit de croire ou de ne pas croire, ce qui est le terme encore qu'on utilise souvent aujourd'hui, notamment dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc le premier député de la noblesse aux États généraux, Stanislas de Clermont-Tonnerre, déclare qu'il faut tout refuser aux Juifs comme nation et tout accorder aux Juifs comme individus. Les emplois publics sont ouverts aux protestants, qui peuvent être dorénavant électeurs et éligibles. Les Juifs obtiennent le statut de citoyen. L'État civil est laïcisé, émancipé de l'Église, ce qui ne va pas du tout de soi. Hein. C'est encore le cas aujourd'hui en Italie. C'est encore, il y a des formes de reconnaissance mutuelle, hein, mais c'est encore largement l'Église qui, sauf erreur de ma part, tient l'État civil. Et ces premières mesures, en fait, sont un peu la matrice originelle de ce qu'on peut appeler la laïcité à la française. Jean Bobreau parle, je crois que le terme est assez juste, de première étape de la laïcisation, la deuxième étant le cycle de lois de la Troisième République dans les années 1880 et le troisième, évidemment, la loi de séparation. Et cette première étape de laïcisation touche toutes les grandes étapes de la vie du citoyen, que ce soit la naissance, le mariage, la mort. Le divorce est institué, un nouveau calendrier laïque est mis en place. Mais bien évidemment, cette première étape de la laïcisation est marquée par l'épisode de la Terreur, qui bouleverse du tout au tout, du jour au lendemain, les relations que pouvait entretenir le pouvoir royal, l'État, et l'Église. À l'époque, les révolutionnaires, mais c'est ouvert au débat, évidemment, en veulent avant tout aux figures de l'absolutisme. Le roi, évidemment, mais aussi l'Église. Tous les révolutionnaires ne sont pas anti-religieux par principe, mais du mouvement des Lumières a découlé très clairement dans un certain nombre de cercles parisiens qui ont éclairé les travaux de l'Assemblée nationale de l'époque, l'Assemblée constituante, une éthique fondée sur la religion naturelle, conforme à la raison. C'est aussi là qu'il faut voir un petit peu les racines de ce mouvement de détachement de l'Église. La constitution civile du clergé, bien évidemment, de 1790 va être une de ces ruptures d'une grande violence qui, encore aujourd'hui, sans doute, explique un certain nombre de choses. Vous le savez, les prêtres sont salariés par l'État, doivent prêter un serment de fidélité à la Révolution. Pie VI condamne très fermement ce mouvement. Dès 1791, l'Église catholique se divise entre clergé assermenté et clergé réfractaire. Et en 1791, de fait, la nouvelle Assemblée législative prend un tournant très anticlérical et antichrétien, contrairement à ce que pouvait être l'inspiration de base du mouvement des Lumières, tel que la vivait un certain nombre de révolutionnaires. Elle supprime les subventions, proclame en 1795, l'an 3 de la République, la séparation de l'Église et de l'État, et plus de 3000 prêtres et religieux trouvent la mort entre 1792 et 1794, victimes d'un certain nombre de massacres et d'exécutions arbitraires. Donc cette histoire terrible va peser assez lourdement sur l'avenir et donner à la laïcité à la française une dimension initiale assez tragique et fondatrice en même temps. Qui va mettre longtemps à s'apaiser, sans doute un siècle et demi, voire même deux siècles. Intervient bien sûr Napoléon. Alors, c'est pas ici qu'on va trancher le débat historique sur Napoléon est-il le continuateur ou le fossoyeur de la Révolution, hein. Mais à mon modeste niveau, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que Napoléon a voulu réconcilier le pays. Il a en tout cas fait œuvre de réconciliation avec le pape, à tout le moins, en signant le Concordat. Concordat qui rétablit en fait l'unité de principe de l'Église de France, hein, après ces années de division, mais qui se refuse à faire du catholicisme la religion d'État, qu'elle a pu être sous l'Ancien Régime et qu'elle sera parfois au cours de la Restauration. L'Église, de son côté, entérine la nationalisation des biens du clergé, chose qu'elle n'avait jamais acceptée, et le fait que les évêques et les curés, à l'époque, sont rémunérés et nommés par l'État. Par contre, le culte est libre et public. Napoléon aussi, vous le savez, promeut la création d'un culte israélite constitué et institutionnalisé. Ce qui, je crois, fait encore parfois débat dans le judaïsme français, mais en tout cas, les institutions créées par Napoléon existent encore d'une certaine façon, aujourd'hui, avec le consistoire central et les différents consistoires. Il promeut la création donc d'un culte reconnu luthérien réformé, et il consacre le pluralisme confessionnel, même si c'est un pluralisme très encadré, puisque dans l'idée de Napoléon, les religions doivent être libres, mais quand même très, très largement encadrées par l'État. Une des grandes œuvres de Napoléon aussi, vous le savez, c'est le Code civil, qui, en théorie, ne s'occupe pas de questions religieuses, mais qui prolonge quand même un peu l'œuvre de la Révolution en confirmant le mariage civil, la possibilité du divorce, et surtout en autonomisant la médecine, le secteur de la santé, et l'enseignement scolaire, qui tous les deux étaient très marqués, évidemment, par l'Église sous l'Ancien Régime. Mais ça n'empêche pas le législateur de reconnaître l'utilité sociale de la religion et de faire appel d'une certaine façon à une morale religieuse qui rejoint très largement la morale laïque. La nation a besoin, pour le législateur de l'époque, de la religion pour se réformer. Voilà, donc au terme de cette première étape de laïcisation, et je fais bien les mots de Jean Bobreau, hein, on a trois principales innovations. La première, c'est une sorte de fragmentation institutionnelle. La religion n'est plus socialement porteuse d'un sens qui concerne tous les aspects de la vie. Des institutions telles que la médecine ou l'école se structurent, se développent, s'autonomisent en dehors du cadre religieux. Deuxième caractéristique, c'est une reconnaissance de la légitimité sociale de la religion, qui est reconnue comme une institution de socialisation, qui assure d'une certaine façon un service public, mais qui reste quand même protégée et surveillée par l'État. La troisième innovation, c'est la reconnaissance du pluralisme, hein, cette troisième branche de la définition du Conseil d'État que je vous donnais, dans cette égale reconnaissance de tous les cultes, l'État se situant en surplomb de chaque culte, mais n'ayant pas de relations privilégiées avec l'un ou l'autre.
Vous êtes sur quelle année à peu près,
là je vous parle de l'étape 1789-1808, quoi. Je mets un peu dans le même sac que la période révolutionnaire et Napoléon. Okay. Donc, et par là même, je tranche un peu d'une certaine façon pour ce sujet précis. Le sujet de Napoléon, est-il le continuateur ou le fossoyeur? Enfin, je propose de mettre dans le même paquet pour ce sujet précis l'œuvre révolutionnaire et puis celle de Napoléon. Donc dans cette émancipation de certaines institutions, l'école, la santé, bien évidemment l'enseignement sera au cœur des débats, elle est toujours d'ailleurs, au cœur des débats entre l'Église et l'État. Le bureau des cultes a la joie de préparer l'instance de dialogue entre le gouvernement et l'Église catholique, vous savez, qui avait été créée par Lionel Jospin, au cours de laquelle, au plus haut niveau de l'État, hein, puisque c'est le Premier ministre et les ministres qui sont compétents sur l'ordre du jour, et puis du côté de l'Église, c'est le nonce apostolique et le président de la Conférence évêque de France, et en tout cas pour celle qu'on prépare cette année, qui aura lieu à l'automne, encore une fois, les sujets d'enseignement sont au cœur du débat. Et ils ont été au premier rang des débats tout au long du XIXe siècle, avec la loi Guizot de 1833, qui énonce que l'instruction primaire est privée ou publique, mais évidemment la loi Falloux, qui a disparu aujourd'hui dans le code de l'éducation, hein, mais qui donne au ministre du culte un droit de surveillance et de direction sur les écoles primaires, et par laquelle, déjà à l'époque, l'Église participe officiellement à l'enseignement public. Je passe rapidement sur les lois Ferry, hein, qui sont un passage important, puisque entre 1879 et 1905, en fait, c'est ce que j'ai appelé, avec Jean Bobreau, hein, le second seuil vers la laïcité à la française. On a tout un cycle de lois voulues par la Troisième République, que ce soit le divorce, l'abolition de l'interdiction de travail du dimanche, l'abolition des prières à l'ouverture des sessions parlementaires, le retrait des insignes religieux, des écoles, des tribunaux, et puis les lois Ferry sur l'école primaire, publique, gratuite, laïque et obligatoire, de 6 à 13 ans. La loi Goblet de 1886 laïcise le personnel enseignant et le personnel ecclésiastique n'a plus l'autorisation d'enseigner dans les écoles publiques. Cette question de l'école tout au long du 19e est vraiment très importante dans cette marche vers la laïcisation de la société française, avec tout un... des grandes voix que je ne peux que citer, Léon Gambetta, qui déclare devant les républicains de l'Aisne: « Je désire de toute la puissance de mon âme non seulement qu'on sépare l'Église de l'État, mais qu'on sépare les écoles de l'Église. Mais Fernand Buisson, également, député du 13e arrondissement, qui est le créateur en fait, hein, du terme laïcité, qui met alors en garde déjà à l'époque contre les dérives d'une morale laïque trop extrême, prenant d'une certaine façon le contre-pied de Léon Gambetta, et qui plaide pour conserver un arrière-plan d'idéalisme qu'il craint de voir disparaître. Alors, donc il dit qu'il faut laïciser la religion et libéraliser la pensée. C'est en peu de mots, je pense, retracer assez bien l'état d'esprit de l'époque. Et on en arrive bien sûr à mon grand D, hein, à ma dernière sous-partie de ce panorama historique très rapide, évidemment, la loi de 1905, évidemment, pierre angulaire de la laïcité à la française, qui intervient dans un contexte très troublé, hein, vous le savez, 1902, donc le président Combes ferme 115 écoles congrégationnistes, 1902 aussi, 3000 établissements scolaires non autorisés de congrégation sont fermés. Et entre 1903 et 1904, toutes les demandes d'autorisation des congrégations sont rejetées et finalement interdites d'enseignement en 1904. Le 30 juillet 1904, les relations diplomatiques avec le Saint-Siège sont rompues et par là même, le concordat est caduque. Donc à partir de là, dans une situation de vide juridique qui entraîne nécessairement que la représentation nationale, hein, le Parlement, se saisisse de la question et en débatte lors de débats houleux qui se sont déroulés à quelques mètres d'ici. C'est quand même assez drôle d'en parler dans ce cadre-là, avec des lignes assez fortes, hein, des lignes de partage assez fortes. Hein, les radicaux de gauche, qui sont un des grands partis, hein, de la Troisième République, ont vraiment pour principe directeur de leur action. À l'époque, la gauche se préoccupait assez peu de social, en fait. Hein. Une des lignes directrices du parti des radicaux de gauche, c'était vraiment la laïcisation de la société. Mais à l'inverse, le député de la Seine, Paul Leroll, qui accuse les radicaux de vouloir abolir le christianisme, le député du Finistère, Curville, dénonce le projet de construire une France sans Dieu, c'est-à-dire contre Dieu. On renie les origines chrétiennes de notre pays. D'autres députés, comme Maurice Allard, sont favorables à une destruction complète de l'Église, qu'ils qualifient de danger politique et social, et qui déclarent que le christianisme est un obstacle permanent au développement social de la République, je cite. Mais à l'inverse, des voix plus raisonnables, hein, comme celle d'Aristide Briand, qui aura une influence décisive, hein, dans les débats parlementaires, plaident pour une loi équitable, plus favorable aux Églises, et soutient l'idée d'un compromis. Paul Deschanel, hein, qui fut également président de la République, hein, soulignera les transactions qui mènent à la réforme. Donc il y a des lignes très partagées, mais cette loi est vraiment une loi de compromis. Donc la loi a conduit à la fin du concordat, à l'exception bien connue, évidemment, d'Alsace-Moselle, plus exactement de l'Alsace et de 19 cantons de Moselle, qui étaient sous occupation allemande à l'époque. Et la loi fixe, je vous le disais en introduction, hein, deux principes, la liberté de conscience, c'est l'article 1, et la séparation de l'Église et de l'État, c'est l'article 2. En reconnaissant que ces deux principes sont totalement imbriqués, le législateur montre bien son souci de respecter toutes les croyances, et Clémenceau, qui pourtant n'était pas une grenouille de bride de bénitier au sens strict, hein, dans son discours sur la liberté de 1903, déclarait qu'aucun des Français qui ne voudrait aller à la messe ne doit se trouver dans l'impossibilité de le faire. Alors, une fois cette loi promulguée, en fait, se pose tout un tas de problèmes administratifs immédiats. Hein. C'est comme dans un divorce, hein, je le disais. Il faut savoir où vont les biens, comment chacun des époux peut continuer à vivre, chacun en ce qui le concerne. Et donc la loi de séparation organise tout un tas de choses assez concrètes. Elle supprime évidemment tout le service public du culte, ce qu'on appelle le service public du culte, hein, qui existe d'une certaine façon encore en Alsace-Moselle. Elle interdit le subventionnement du culte, le passage de l'article 2 bien connu. Mais elle fait tout de suite des exceptions dès l'article 2, en prévoyant que un service d'aumônerie dans les hôpitaux, les écoles, les armées, afin de permettre à tous ceux qui sont privés de la liberté d'aller et venir de pouvoir exercer la liberté de religion. Je voudrais juste citer Charles Péguy, qui déclare, après l'examen de loi par la Chambre des députés, « J'aurais, comme tout le monde, constaté que cette séparation s'était faite au moins à la Chambre à peu près honnêtement, qu'elle n'avait point été un exercice de persécution, de suppression de l'Église par l'État, un essai d'oppression, de domination anticatholique, prétendue anticléricale, mais qu'elle avait révélé un effort sincère de libération mutuelle, qu'elle avait abouti à un premier effort sérieux de libération organisée. » Voilà, donc au bilan, cette loi est vraiment une loi à la fois de compromis, mais aussi de liberté. Elle permet trois compromis, en fait. Le premier, c'est que la religion se privatise, mais peut toujours avoir une expression collective et une visibilité sociale. Le deuxième, c'est qu'il peut y avoir une organisation propre à chaque culte, notamment au niveau hiérarchique, et cette réalité est vraiment prise en compte. Et la troisième, c'est que la France garde ses racines religieuses en conservant dans son calendrier les fêtes publiques et en choisissant de ne pas détruire, par exemple, les calvaires, qui étaient ces croix, en fait, hein, qu'on trouve encore aujourd'hui au détour de nos carrefours. Alors très concrètement, qu'est-ce qui se passe au lendemain de la loi? C'est la mise à disposition des fidèles de plus de 30 000 édifices religieux. La loi prévoit la création d'associations cultuelles qui doivent se substituer aux établissements publics du culte et qui doivent reprendre à leur compte, en fait, ces édifices du culte. Les protestants et les juifs jouent le jeu, créent ces associations cultuelles. Mais vous le savez sans doute, le pape Pie X condamne la loi de 1905 et ses conséquences dans une encyclique du 11 février 1906. Et on se retrouve dans une situation de blocage parce que un vide juridique. Hein, ces édifices n'appartiennent plus à l'État, mais en même temps, ils n'appartiennent pas non plus aux associations cultuelles qu'a voulu le législateur. Et pour organiser le divorce, la crise des inventaires secoue le pays à compter de 1906. Le temps fera son œuvre et cette crise se résoudra au travers des accords Poincaré-Cerretti qui vont être négociés entre 1921 et 1923 entre la France et le Vatican et qui vont permettre le rétablissement des relations diplomatiques et permettre aussi d'apporter une réponse à l'Église qui, dans la loi de 1905, voyait une atteinte à l'autorité de l'évêque, puisque la logique de la création des associations cultuelles, c'était l'échelon paroissial. C'était que au niveau de la paroisse, il y ait quelqu'un qui dirige l'association cultuelle. Pour les protestants et les juifs, ça ne pose pas tellement de problème. Hein, mais pour les catholiques, ça pose un vrai problème, puisque le Vatican voit dans cet échelon local très, très proche du terrain, une autonomisation administrative du curé, de la paroisse, et une non-reconnaissance du rôle de l'évêque. C'est la raison pour laquelle les accords Poincaré-Cerretti permettent de faire coïncider ces associations cultuelles pour les catholiques, non pas là au niveau de la paroisse, mais au niveau du diocèse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les seules associations catholiques que reconnaît l'État, en dehors des congrégations évidemment, ce sont les diocèses. Pour conclure cette partie historique, il faut peut-être dire un mot à grands traits hein, de toute l'œuvre que va faire aussi le Conseil d'État dans sa jurisprudence, qui est une jurisprudence apaisante, une jurisprudence qui a permis d'avoir une lecture très très intelligente, je pense, hein, c'est un avis personnel, de la loi de 1905. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous reporter au rapport du Conseil d'État de 1904, hein, de 2004, pardon, qui explique très bien comment le Conseil d'État a permis d'apaiser tout au long du XXe siècle, en fait, par sa jurisprudence, cette œuvre législative de 1905, tout en mettant en œuvre, hein, la lettre de la séparation de l'Église et de l'État. Voilà, j'en viens à ma deuxième partie, dans laquelle je vais vous exposer un petit peu plus rapidement peut-être comment tout d'abord l'État est neutre et l'État est séparé des Églises, mais aussi comment l'État garantit la liberté de religion. Et enfin, comment, à travers un certain nombre d'exemples, la laïcité est vraiment un principe de liberté avec des limites que sont l'ordre public et le bon fonctionnement des services publics. L'État est neutre, donc c'est un secret pour personne. Exemple concret, pour les fonctionnaires que je suis, ou que certains d'entre vous sont aussi, c'est un principe qui s'applique de façon assez stricte. Hein. Le Conseil d'État l'a rappelé en 2000 dans un avis Demoiselle Marteau, dans lequel, à l'époque, c'était une surveillante d'externat qui portait le foulard islamique. Mais il y a eu un arrêt récent aussi sur, je crois que c'était une fonctionnaire protestante qui avait distribué des calendriers de sa paroisse, de sa communauté à la mairie, je crois que c'est dans l'Est parisien. Et donc ce principe de neutralité s'applique de façon extrêmement stricte pour les agents publics, avec des évolutions, parce que dans la tradition juridique française, le service public est conçu de façon très souple. Donc qu'est-ce que c'est qu'un agent public? Ça a un peu évolué avec la jurisprudence du Conseil d'État au fil du siècle. Et tout le monde a parlé de l'arrêt Babylou qui a été... le feuilleton juridique s'est achevé cette semaine, enfin la semaine dernière. Mais le même jour que le premier arrêt de la Cour de cassation sur Babylou a été rendu un arrêt caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, qui disait une chose qui était quand même importante et qui est passée un peu inaperçue à cause de Babylou, qui est que un organisme privé chargé d'une mission de service public, dans cet organisme, le principe de neutralité s'applique de la même façon que dans la fonction publique. Ce qui veut dire que dans une caisse primaire d'assurance maladie, là c'était une fonctionnaire qui n'était pas pourtant devant les guichets, hein, ne pouvait, elle était chargée d'une tâche administrative, ne pouvait porter le foulard. Par contre, cette neutralité des agents a des limites. Et bien évidemment, la première limite, c'est la liberté de conscience, hein, des agents publics, qui est protégée par la loi de 83 sur le statut des fonctionnaires. Les croyances et les opinions de l'agent ne peuvent être prises en considération, que ce soit dans la gestion de sa carrière. Et donc, sa liberté de conscience est vraiment protégée. À titre d'exemple, il peut très bien demander une autorisation d'absence pour son culte, hein, quel que soit son culte, s'il souhaite sa santé pour l'Aïd, etc. Bien évidemment, dans la limite de la nécessité du service. Autre principe fort de la neutralité de l'État, c'est le non-subventionnement des cultes, qui est proclamé à l'article 2 de la loi 1905, hein, qui souffre des dérogations dès la loi de 1905, hein, avec les aumôneries, je l'ai dit, mais qui est un principe assez strict. Hein, bon, si vous voulez, je pourrais peut-être y revenir dans les questions. Un principe strict, mais qui connaît des dérogations. Il peut y avoir des modalités indirectes de subventionnement des cultes, voire directes dans certains cas, notamment quand il y a un intérêt public local. Mais le Conseil d'État a édicté des conditions assez strictes qui font que il ne peut pas y avoir de versement direct, par exemple, à une association culturelle. Il faudra qu'il y ait une association 1901 distincte qui ne porte que des activités d'intérêt général, qui puisse recevoir ces subventions, même si elles sont en relation avec le culte. Il y a des subventions indirectes aussi. Un exemple connu, c'est le bail emphytéotique administratif. Je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif un peu complexe, mais qui a permis notamment de construire un certain nombre de mosquées et de mettre en place, de permettre aujourd'hui aux musulmans d'avoir un un certain nombre de lieux de culte, et sans doute on n'est plus du tout dans la situation difficile dans laquelle on était au début des années 80. Aujourd'hui, une association cultuelle musulmane qui veut construire une mosquée, quand le projet est bien ficelé, bien présenté au maire, et que le maire est disposé à l'aider, par le biais notamment de ce bail emphytéotique administratif, va à son terme. Donc voilà, je pourrais revenir plus largement si vous avez des questions sur ce sujet du non-subventionnement des cultes. Alors, indissociablement, l'État garantit le libre exercice des cultes. Donc la liberté d'exercer son culte est une liberté publique. C'est bien pour ça que le bureau des cultes est rattaché à la sous-direction des libertés publiques, à la direction des libertés publiques. L'administration la reconnaît parce que la liberté du culte, la liberté de culte est en fait au croisement en fait de plusieurs libertés publiques. La liberté de réunion, les réunions cultuelles sont considérées comme des réunions publiques, mais elles sont dispensées des formalités de déclaration qu'on demande par exemple aux organisateurs de manifestations. La liberté de culte est aussi liée à la liberté de manifester publiquement les processions, qui sont tout à fait possibles. Il y a une jurisprudence riche du Conseil d'État sur le sujet. Mais la manifestation publique du culte est possible, et garantie d'ailleurs par les conventions internationales, notamment par la Convention européenne des droits de l'homme. La liberté du culte implique aussi la nécessité de disposer de lieux de culte. Et donc la question des lieux de culte n'est pas complètement, pas du tout même indifférente à l'État. Et la liberté de culte est aussi liée à la liberté d'association, qui, vous le savez, est un principe constitutionnel. Et donc il y a les différentes religions ont le choix de s'organiser soit sous la forme d'associations déclarées, loi 1901, soit sous la forme d'associations cultuelles, loi 1905. Donc ces structures juridiques existent. Il y a des structures juridiques dédiées, les associations culturelles dont j'ai déjà parlé, mais aussi les congrégations qui existent, qui sont régies par la loi 1901, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le titre 3 de la 1901. Et donc aujourd'hui, les cultes ont des supports administratifs variés pour s'organiser. Je pourrais revenir de façon un peu plus détaillée, si vous voulez, dans vos questions sur ces questions d'association 1905, mais qui sont un peu techniques. Je ne sais pas dans quelle mesure ça vous intéresse, mais on pourra y revenir. Notamment sur qu'est-ce qu'une association culturelle, quels sont les critères qui permettent au préfet de la reconnaître, et quels sont les avantages, parce qu'elle dispose d'un certain nombre d'avantages fiscaux qui font que l'État fournit des supports administratifs qui permettent vraiment à la liberté de culte de s'exercer. Bon, je pourrais y revenir, si vous voulez, dans un deuxième temps. Dans ma troisième sous-partie, je vais juste vous dire quelques mots des limitations, tout en rappelant toujours que la laïcité est vraiment un principe de liberté, la liberté religieuse n'est pas une liberté infinie. Elle doit bien évidemment être conciliée avec d'autres contraintes, que sont notamment l'ordre public et le fonctionnement du service public. Il peut y avoir des limitations qui sont demandées aux demandes religieuses de certains usagers du service public. J'ai parlé des agents, je mets ça de côté. Il y a une charte de la laïcité dans les services publics qui date de 2007, qui est assez bien faite. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous y reporter, qui rappelle que, certes, le droit de porter un signe religieux est l'une des composantes de la liberté d'opinion, donc par là même, le port de signes religieux par les usagers dans l'enceinte des services publics ne pose pas de problème. D'ailleurs, on le rappelle souvent des préfectures qui sont choquées, par exemple, que des musulmanes puissent venir avec le voile dans l'enceinte de la préfecture. C'est leur droit le plus strict. Il n'y a aucun problème à cela. Mais la logique est bien que l'administration, pour ce qui la concerne, pour les agents, se situe en surplomb et donc ne favorise aucune demande religieuse par rapport à une autre. Et donc il ne peut pas y avoir d'adaptation du service public demandé par les usagers. Exemple bien connu, les cantines scolaires. Les cantines scolaires, c'est en aucune façon un droit pour les usagers de demander un repas halal, cachère ou ce que je ne sais. Ce qui n'empêche pas que l'administration peut aussi ne pas être complètement obtuse et proposer des solutions qui permettent à tous les citoyens et à tous les élèves de bénéficier d'un repas par le biais de menus sans viande, de menus avec du poisson, etc., etc. Un cas particulier, c'est bien évidemment le cas de l'école. Donc on l'a déjà dit, hein, qui a toujours été un lieu particulier où se posait la question de, où se posait la question de la laïcité. Donc il y a eu ce long débat, hein, qui a duré grosso modo entre 90 et 2004 sur la question de savoir si l'école devait être une enceinte préservée des tensions religieuses. Et vous le savez, la commission Stasi a proposé au président de la République qui a déposé un projet de loi de légiférer. Et donc la loi du 15 mars 2004 dispose que dans les collèges, les écoles et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lequel les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Donc ce principe a été précisé, hein, bien évidemment, par une circulaire, par la jurisprudence du Conseil d'État. Au jour d'aujourd'hui, vu du ministère de l'Intérieur, en tout cas, hein, tout le monde ne dira pas la même chose, mais je pense que cette loi de 2004 est vraiment un succès. Les tensions aujourd'hui sont relativement limitées. Hein. Bon, elles existent ponctuellement. Il y a des contournements qui parfois ont lieu, mais il n'y a plus de problèmes problème comme on a pu en connaître dans les années 90, hein, où il y avait des exclusions nombreuses de jeunes filles qui portaient le voile, mais pas seulement. Hein. Ça pouvait être aussi des sikhs qui portent le turban. Vous le savez peut-être, hein, j'ai découvert ça récemment, hein, mais que pour les sikhs, le turban est vraiment un signe religieux très très important pour eux. Hein. Il n'est pas envisageable de l'enlever, que ce soit à l'école, que ce soit au contrôle d'aéroport. Même chose dans la communauté juive. Hein. Et donc aujourd'hui, cette loi de 2004 est plutôt un succès. Alors d'autres questions se posent, hein, évidemment, c'est le cas des accompagnatrices de sortie scolaire. Vous avez peut-être aperçu dans la presse toute la réflexion qu'il y a eu à la demande du défenseur des droits, hein, qui avait demandé un avis au Conseil d'État en décembre dernier sur les accompagnatrices de sortie scolaire. Les mamans voilées qui accompagnent les sorties scolaires sont-elles ou pas des collaborateurs du service public? Le Conseil d'État a répondu que non, catégorie n'existait pas. Il y avait des usagers et des agents, mais il n'y avait pas de catégorie au milieu. Mais par contre, que pour les besoins du bon fonctionnement de l'établissement, il pouvait être demandé au cas par cas, avec discernement, dans le cadre d'un dialogue avec les intéressés, de ne pas porter le voile lors de sorties scolaires. Pas de règles strictes et abruptes. Voilà. Autre restriction possible à la liberté religieuse, c'est l'ordre public, les motifs d'ordre public. C'est le cas, par exemple, des documents d'identité. Donc un décret de 1955 impose d'être photographié tête nue pour des raisons de sécurité, hein, pour pouvoir être reconnu, tout simplement. Ce qui vaut à la fois pour les religieuses catholiques, pour les femmes musulmanes, pour les sikhs. Et le Conseil d'État, puis la Cour européenne des droits de l'homme, a jugé que cette règle n'était en aucun cas discriminatoire, mais était parfaitement justifiée par des motifs d'ordre public. Autre exception, mais on est en plein dans l'actualité, hein, puisque la Cour européenne des droits de l'homme a rendu aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu, son arrêt sur la loi portant dissimulation du visage dans l'espace public, hein, dite loi, enfin c'est les médias qui disent loi anti-burqa, c'est pas très heureux. Cette loi est tout sauf une loi de laïcité. Mais est une loi avant tout d'ordre public. C'est bien pour ça que je l'ai classée dans cette partie-là de mon intervention. Donc cette loi interdit dans tous les lieux publics, à l'exception des lieux de culte, de dissimuler la totalité de son visage pour plusieurs fondements, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que se dissimuler le visage, c'est porter atteinte aux exigences minimales de la vie en société. C'est ce que dit l'exposé des motifs de la loi. Mais aussi parce que les personnes concernées sont placées dans une situation d'exclusion qui est incompatible avec les principes de liberté, d'égalité entre l'homme et la femme et de dignité humaine telles qu'ils sont conçus dans la République française. Voilà. Et dernière considération, évidemment, c'est la considération d'ordre public, qui vaut d'ailleurs aussi pour les casques, les cagoules, c'est-à-dire qu'une personne qui circule dans l'espace public doit pouvoir être reconnue au nom de la sécurité publique. Voilà, il y a quand même des exceptions, hein, évidemment, qui sont prévues dans la loi. Les protections du visage prévues pour des raisons de santé, les casques quand on est sur sa moto, etc., etc. Et on pourra y revenir si vous le souhaitez. Juste un petit mot peut-être sur une question ancienne, hein, que sont les manifestations religieuses, les processions, les rassemblements, etc., qui se déroulent sur l'espace public. En fait, ils ne peuvent jamais être interdits sur le fondement de la laïcité. Ils peuvent être interdits sur le fondement de l'ordre public, mais jamais sur celui de la laïcité. Et un article premier du décret-loi du 23 octobre 1935 précise que sont soumis à l'obligation de déclaration préalable tout cortège, défilé et rassemblement de personnes, et d'une façon générale toutes les manifestations sur l'ordre public, la pratique fait que pour les manifestations habituelles et traditionnelles, je parle des processions de la fête Dieu par exemple dans les villages du Pays Basque d'où je viens, il n'y a pas besoin de déclaration préalable. Et comme les processions et les manifestations religieuses publiques, hein, comme toutes les manifestations, doivent, quand elles font l'objet d'une mesure de police administrative, concilier à la fois le respect de la liberté publique, liberté de culte en l'espèce, et le maintien de l'ordre public. Voilà, j'en viens à ma troisième partie pour balayer à grands traits, hein, peut-être quelques sujets qui se posent à nous. Mais je voudrais peut-être commencer cette dernière partie sur les défis de la laïcité pour dire que même s'il s'agit d'une loi centenaire, elle répond quand même aujourd'hui, grâce à l'interprétation qui en a été faite par le Conseil d'État, grâce aux évolutions législatives aussi qui ont été faites concernant la loi 1905. Hein, je crois que la dernière modification date de 2011. Hein, vous voyez, donc c'est pas, ça doit être la pierre angulaire. Elle est encore amendée et amendable. Donc grâce à tous ces ajustements, en fait, la loi de 1905 répond quand même à un certain nombre de défis, mais pas à tous. Hein. Il y a forcément le paysage religieux de la France évolue. Hein. Vous êtes bien placé pour le savoir puisque vous travaillez au quotidien de façon hebdomadaire sur le sujet. Hein. Le paysage religieux de la France évolue et donc la loi de 1905, le cadre législatif, le cadre la jurisprudence évolue aussi et c'est bien naturel. Et elle évolue en fait. Pas si mal, même si des nouveaux défis se présentent et c'est pas et c'est bien normal. Juste un tout petit mot pour dire que elle fait cohabiter les nouveaux défis avec les disparités héritées de l'histoire. Hein. Comme vous le savez, il n'y a pas un, mais au total 6 régimes d'organisation des cultes sur le territoire. Alors je ne me posais pas trop de questions sur les régimes outre-mer parce que c'est quand même très sophistiqué, mais on a bien sûr le Concordat d'Alsace-Moselle, mais le culte en Guyane est régi par une ordonnance royale de 1828 de Charles X. En Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, mais aussi en Guyane, et c'est là où c'est compliqué, s'appliquent les décrets Mandel des années 50. Et donc on a tout un tas de régimes divers qui coexistent sur le territoire national, chose que le Conseil constitutionnel a validée récemment, en février 2013, et qui ne pose pas en soi de problème vis-à-vis du principe constitutionnel de laïcité. Il y a aussi des différenciations entre les cultes suivant l'histoire. Hein. Le cas le plus connu, évidemment, c'est la question des lieux de culte. Vous le savez, la majorité des lieux de culte catholiques construits en 1905 appartiennent aujourd'hui au patrimoine des communes à cause du blocage que j'ai évoqué entre 1905 et 1921. C'est un reste de l'histoire. Et aussi, autre exemple plus récent, hein, l'aumônerie hospitalière, pénitentiaire, est encore aujourd'hui marquée par une présence catholique très forte. C'est aussi le fait de l'histoire. Hein, l'islam est présent sur notre territoire de façon plus récente. On a beaucoup parlé du manque d'aumôniers musulmans à l'occasion de l'affaire des mouches en prison. C'est aussi le fait qu'il y a un mouvement de rattrapage hein, qui est progressif, mais qui ne se fait pas en un jour. Voilà, je vous l'ai dit, le droit applicable aujourd'hui permet globalement de répondre aux attentes des cultes, hein, globalement. La question des lieux de culte est une question majeure, hein, il n'y a pas de liberté de culte s'il n'y a pas de lieu de culte. Et au jour d'aujourd'hui, je vous ai dit quelques mots des baux amphithéotiques, mais il existe tout un tas de dispositions, une sorte de boîte à outils qui permet de construire des lieux de culte de façon je n'allais pas dire facile, hein, parce qu'il faut quand même trouver l'argent, il faut quand même trouver l'ingénieur administratif, mais pour ceux qui le veulent, c'est possible. Les évangéliques nous disent qu'ils construisent un lieu de culte tous les 10 jours. Je ne sais pas si c'est vrai. Et puis chez eux, les lieux de culte sont quand même de taille assez modeste. Ça peut très bien être un espace de bureau recyclé en lieu de culte. Hein, donc, la construction de lieux de culte est possible. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, un conseil municipal peut garantir l'emprunt d'une association culturelle qui souhaite construire un lieu de culte. C'est quand même une faculté, c'est-à-dire qu'elle endosse le risque de faillite du projet. C'est quand même pareil. Il est aussi possible de bénéficier pour les associations culturelles d'avantages fiscaux, très importants. Et il peut y avoir des... Je vous ai parlé du principe de non-subventionnement, mais il peut y avoir des subventions pour les parties culturelles d'un ensemble plus vaste. L'exemple le plus célèbre, c'est la mosquée d'Evry. La cathédrale d'Evry, pour laquelle il y a un musée diocésain hein, d'art sacré qui a été subventionné. Mais c'est aussi le cas, là on a un dossier par exemple avec la Grande Mosquée de Lyon hein, qui veut créer un institut français de culture musulmane et qui demande des subventions, et c'est parfaitement légitime et possible. Question d'actualité un peu en vrac, hein. Donc les lieux de culte, j'en ai parlé. La question funéraire, qui aujourd'hui est une question qui est un peu moins présente. Hein. Aujourd'hui, vous le savez, hein, les cimetières sont des lieux publics civils, où toute marque de reconnaissance des différentes confessions est impossible dans les parties communes. Mais évidemment, sur les tombes, c'est laissé à la volonté des familles. Et le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police funéraire, déterminer l'emplacement affecté à chaque tombe. Et donc, il est donc possible de rassembler, sans que ça soit matérialisé, les sépultures d'une personne de même confession, ce qui, pour les défunts de confession musulmane, peut être important, mais aussi pour les défunts de confession juive. Le problème de la formation des cadres religieux hein, est un problème complexe qui ne regarde l'État que pour partie. Hein. L'État n'a rien à dire sur la formation confessante des cadres religieux. Mais malgré tout, elle se pose à l'État pour les cultes les plus récents, hein, pour l'islam notamment, puisque ne serait-ce que pour la question des aumôneries. Dans une religion, il n'y a pas de clergé. Il faut que... L'État puisse avoir garanti qu'il y ait une formation minimale dans les domaines non théologiques, à tout le moins, et une connaissance minimale des règles de la laïcité, des règles de nos institutions et du cadre français. On pourra y revenir si vous le souhaitez. La question de l'abattage rituel aussi, qui est une question dont on discute souvent avec le consistoire, évidemment, avec les musulmans aussi, mais de façon beaucoup plus dispersée, ce qui n'est pas évident, qui est parfois remise en cause au niveau européen. C'est un peu notre principale difficulté, et c'est là où on porte le fer, hein, puisque, bien évidemment, le droit français voit dans l'abattage rituel une composante de la liberté de culte. Sans abattage rituel, on ne voit pas comment les juifs ou les musulmans pourraient, religieux qu'ils le souhaitent, hein, pourraient vivre leur culte. Mais il y a tout des tensions au niveau européen, au niveau du Conseil de l'Europe, au niveau de l'Union européenne, notamment vis-à-vis des défenseurs des animaux qui font un lobby assez fort hein, pour interdire l'abattage rituel, et ils ont réussi dans certains pays. J'en viens à ma deuxième sous-partie hein, sur la question de l'extension de la neutralité religieuse. Bon, on en parle dans l'actualité. Hein, c'est la question évidemment du secteur de la petite enfance. Donc l'arrêt Babylou, l'arrêt final de la Cour de cassation est un arrêt d'espèce, comme on le dit dans le langage juridique. Ce n'est pas un arrêt de principe. Et donc la Cour de cassation n'a pas dit, et c'est normal, c'est pas son rôle, c'est plutôt le rôle du législateur, si le secteur de la petite enfance devait faire l'objet de la même neutralisation qu'a fait l'objet que celle dont l'école a fait l'objet en 2004. La question reste ouverte. Le débat a été quand même assez apaisé hein, par la Cour de cassation hein, qui a reconnu indépendamment de cette question plus large, en fait, la salariée avait commis une faute et que la nature de la structure, sa taille, justifiait une restriction à la liberté religieuse. Et on pourra parler, si vous voulez, un peu plus largement de la question des limitations de la liberté religieuse dans le monde de l'entreprise. On ne parle pas de laïcité dans le monde de l'entreprise, puisque la laïcité est un principe d'organisation des pouvoirs publics. En tout cas, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a confirmé le licenciement, ce qui permet d'apaiser un petit peu ce débat. La Cour de cassation n'a pas souhaité, si le droit vous intéresse, vous avez peut-être vu que dans les conclusions du procureur général, il était question de faire appel à un concept qui vient d'Allemagne, mais qui a été repris dans le droit de l'Union européenne, qui est le concept d'entreprise de tendance. L'entreprise de tendance, ça existe déjà, ça existe déjà en droit français, mais on ne parle pas d'entreprise de tendance. C'est par exemple le cas des syndicats ou des partis politiques. C'est-à-dire que un salarié du Parti socialiste, le Parti socialiste est en droit d'exiger qu'il y ait une adéquation minimale entre ses opinions personnelles et la finalité du parti dans lequel il sert. Même chose pour l'Église catholique ou pour toute organisation religieuse qui a le droit d'exiger de ses salariés une adéquation minimale entre les convictions personnelles et le but que sert l'organisation religieuse. Une jurisprudence très riche. Récemment encore, je crois que la Cour européenne des droits de l'homme a validé le licenciement d'un, c'était par l'Église espagnole, je crois, d'un prêtre qui défendait le mariage des prêtres, son droit le plus strict, mais qui entre-temps s'était marié, et donc qui menait la croisade depuis l'intérieur et l'extérieur en même temps. Et donc le licenciement a été validé par par la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, l'entreprise privée, très rapidement, donc il n'y a pas de principe de laïcité dans l'entreprise privée. Il y a un principe de liberté qui est consacré par le Code du travail, mais là aussi, cette liberté religieuse n'est pas infinie. Elle peut trouver des restrictions, ce qu'a montré l'arrêt Babylou, la bonne marche de l'entreprise, son image. Il y a un arrêt assez drôle, je ne me rappelle plus la référence, qui validait le licenciement d'une salariée qui ne voulait pas ôter le voile dans un magasin de lingerie. Les exigences de l'image de l'entreprise font qu'il peut y avoir des restrictions portées à la liberté du salarié. Je finirai un petit peu cet exposé, évidemment trop rapide, par le contexte européen international. Je l'ai un peu dit à plusieurs moments de mon exposé. La laïcité française aujourd'hui doit se lire à la lumière de ce contexte européen international, puisque la France souscrit un certain nombre de conventions internationales qui nous lient. Celle qui marque peut-être le plus fortement le droit français sur ce plan-là, c'est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, celle de Strasbourg, pas celle de Bruxelles, qui aujourd'hui a vraiment son mot à dire. On l'a vu aujourd'hui même, même si c'est encore une fois la loi sur de prévention et de dissimulation du visage dans l'espace public n'est pas une loi de laïcité, mais bon, voilà, la Cour européenne en a été saisie, comme elle avait été saisie il y a quelques années de la question des crucifix dans les écoles italiennes. Donc c'est vraiment une jurisprudence qui a une empreinte très forte dans le droit français. Autre exemple, par exemple, c'est la question des témoins de Jéhovah, qui au jour d'aujourd'hui a tous les attributs d'une religion normale. Moi, je les vois comme je vois les autres représentants des différents cultes, et notamment parce que la Cour européenne des droits de l'homme a cassé plusieurs décisions de la France dans divers domaines, notamment dans le domaine fiscal, contre les témoins de Jéhovah. Voilà, que vous dire que j'ai été trop rapide et évidemment j'ai parcouru à grands traits, mais en une heure, c'était l'exercice qui voulait ça. La laïcité est le fruit de notre histoire nationale, de notre histoire nationale au sens large. Moi, je suis vraiment de ceux qui pensent, comme le général de Gaulle, que pour aimer la France, il faut à la fois tout aimer, c'est-à-dire être capable d'être ému à la lecture du récit du Sacre des Rois comme à celui de la fête de la Fédération. Et donc notre laïcité d'aujourd'hui est vraiment le fruit de toute notre histoire, j'espère vous l'avoir montré. Elle est le fruit d'une construction de la loi de 1905, bien évidemment, mais aussi de la jurisprudence du Conseil d'État. Et elle est avant tout un principe de liberté. Et pour finir, je citerai Pierre-Henri Prélot, qui est un juriste, qui disait que si l'État ne peut descendre dans les consciences, en revanche, il lui appartient de les protéger lorsque celles-ci remontent pour s'exprimer dans le champ social. L'élégance, c'est ce qu'on m'avait demandé, donc.
J'ai la liberté de le faire ou pas. Deux mots, vous avez, on avait une table ronde au Conseil économique et social il y a environ un mois de cela. Et écoutez, vous êtes venu compléter parfaitement ce qui s'est dit, notamment par l'intermédiaire de Mme Arnaud Bril, rapporteuse au CESE du livre blanc sur la résistance d'entreprise. Et à l'époque, il n'y avait pas les jugements de la Cour de cassation, ni les autres éléments que vous avez évoqués, donc c'était parfaitement à dispositif. Un grand merci pour ça. Et peut-être aussi de rappeler que non seulement c'est l'histoire de notre pays, enfin le fruit de l'histoire de notre pays, riche de tous ces événements et direction qu'il a pu prendre. Mais aussi que c'est, comme vous l'avez dit, c'est en genèse, ou en racine en tout cas, dans la religion catholique, avec évidemment l'évangile, on rappelle dans Rois César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et que donc on introduit très vite une séparation du temporel et du spirituel. Voilà. Écoutez, vos questions, j'imagine qu'elles sont nombreuses, variées, riches.
Si je peux y répondre. Hein.
Je voudrais évidemment vous féliciter pour votre exposé et juste demander deux petits points parce que je n'ai pas très bien compris par rapport à votre approche du consistoire et lorsque vous avez parlé du consistoire que Napoléon n'a pas tout à fait réussi ou j'ai pas...
Non, je disais juste... c'était beaucoup plus modeste. Je disais juste que l'organisation du judaïsme aujourd'hui qui a évolué, hein, elle n'est pas complètement la copie conforme de ce que Napoléon avait fait. Hein,
c'est-à-dire
la création du consistoire, c'était quand même l'œuvre de Napoléon.
Oui, ça, je veux dire qu'aujourd'hui, le consistoire quand même réagit apparemment 90 ou 95% de la vie juive, quand même.
Complètement. Oui, c'est exactement ça.
Voilà, je veux dire, après...
Après, le consistoire a évolué quand même. Non, enfin, moi, je ne suis pas un expert de l'histoire du consistoire, hein, mais... il y a eu notamment les décrets de 1844, donc bien après Napoléon, qui ont un petit peu prolongé son œuvre et précisé un peu l'organisation du judaïsme en France. C'est en ce sens que je disais que Napoléon a donné un peu l'élan initial à la création du consistoire, mais...
Sans vouloir compliquer les choses, je ne sais pas si vous vous rendez compte... réussir à réunir 90% du peuple des Juifs de France, j'assure que en Israël, le problème, celui qui réunit déjà 20%, c'est déjà ce qui n'existe pas, vous savez. C'est pour ça que je vous dis, franchement.
Le consistoire est une grande réussite, hein, mais à l'époque, ça ne faisait pas du tout consensus. Hein, de ce que j'ai lu, l'histoire du consistoire, une grande partie des Juifs de France ne se reconnaissait pas forcément.
En plus, ce qui est très beau dans l'histoire du consistoire, c'est qu'il est parvenu. À s'adapter et à surmonter toutes les épreuves du temps. Évidemment, la plus grande d'entre toutes, la Shoah, mais juste après, l'arrivée des Juifs du Nord, l'intégration. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, presque de manière naturelle, les Juifs séfarades ont pris le relais. Ils ont investi le consistoire et ont succédé aux Juifs du 19e siècle, du 20e siècle, qui étaient plutôt de tendance du côté plutôt ashkénaze, plutôt d'Alsacien, plutôt de. Des Juifs contemporains. Et maintenant, je trouve que c'est un très bel outil, une très belle réussite.
Complètement, oui. Et puis les Juifs sont un peu les bons élèves avec les protestants en 1905, hein, puisqu'ils l'ont accueilli comme un peu une œuvre de libération.
Je peux enregistrer ou vous n'êtes pas là?
Non, mais il manque pas de nous redire dès qu'on discute avec eux et qu'ils ont quelque chose à demander. Mais c'est la vérité, en fait. Hein, sans doute, parmi les différentes religions présentes en France en 1905, ceux qui l'ont accueilli avec le plus de soulagement, le fait que l'État relâche son emprise sur la vie religieuse du pays, c'était les Juifs et les protestants. Hein. Enfin, je pense que ça se démontre sans trop de problèmes. C'était aussi eux qui avaient le plus souffert, peut-être, de l'immixtion de certains rois de la République dans les affaires de la communauté juive.
Juste, vous pouvez me redonner la citation là, du député Buisson. Vous avez dit qu'il
fallait
utiliser la religion pour libérer la pensée.
Ah, je vous donne la citation exacte. Il faut laïciser la religion et libéraliser la pensée. C'est ça. Et son argument, c'était que la religion est un besoin éternel de l'âme humaine.
C'est surtout le judaïsme qui l'a reconnu, ou est-ce qu'il a aussi reconnu de la même façon le protestantisme, l'islam, je pense pas.
Quand vous dites « il »
Napoléon.
L'islam, en fait, existait surtout dans les colonies, qui n'étaient pas encore les colonies, d'ailleurs. Oui, non, je réfléchis, mais non. Non, c'était en fait, la question de l'islam est vraiment apparue sur la scène publique avec la loi qui a permis la construction de la mosquée de Paris après la guerre de 14, hein, puisque c'est vraiment je pense que c'est une vue parmi d'autres, hein, mais c'est le sacrifice des soldats musulmans pendant la guerre de 14, hein, qui a justifié en fait cette construction et qui a un peu. Mais en métropole, les musulmans étaient à peine 20 ou 30 000. Hein. La question. Enfin, les musulmans de France, en fait, sont arrivés sur le sol français tout au long du XXe siècle et de façon beaucoup plus forte avec l'immigration de travail dans les années 60. Donc, pour Napoléon, je pense pas qu'il ait vu aussi en avant. Non, c'est plus après la Première Guerre mondiale qu'il commençait à se poser la question.
En 70, peut-être, en Algérie, au Maroc, quand la France était présente.
Oui, mais le cadre légal applicable dans les colonies était différent, en fait. Mmh. Et du coup, c'était des lois autochtones, comme on disait à l'époque. Alors moi, je ne suis pas du tout un expert de l'application de 1905 en Algérie française, mais donc elle s'appliquait en Algérie, mais avec des accommodements sur lesquels je ne suis pas un assez bon historien pour rentrer. Je connais quelqu'un qui fait une thèse là-dessus, donc je ne suis pas du tout entré là-dedans, mais elle s'appliquait de façon assez différente. Donc voilà.
On a eu un petit éclairage là-dessus par Oseb Excelad, qui est un des membres du conseil scientifique et qui est un expert de la question musulmane.
Il serait beaucoup mieux armé que moi pour y répondre. Ouais.
Une question très terre-à-terre. Vous avez évoqué la question des cantines scolaires et je trouve ça un exemple intéressant parce que là, on rentre dans le concret et la façon dont les différentes religions cohabitent dans un espace commun. Quelles sont les règles exactes, en fait?
Alors, les règles exactes, c'est que le fait de servir des nourritures spécifiques, appelons-les comme ça, n'est ni une obligation pour les administrations, ni un droit pour les administrés. La règle, c'est celle-là. Donc à partir de là, ça laisse la possibilité de servir des repas sans viande, des repas végétariens, des repas avec poisson, voilà.
Est-ce qu'on peut mettre l'étiquette halal, par exemple?
Alors non.
C'est juste dire, voilà,
non,
c'est
le halal ou le halal ou le la cache-route est une qualité théologique. Donc voilà, l'administration ne va pas passer des marchés publics en disant voilà, ça c'est du bon halal, ça c'est du mauvais. Pour la cache-route, c'est assez simple. Mais pour le halal, aujourd'hui, il y a 3 mosquées qui peuvent agréer des sacrificateurs. Donc voilà, est-ce que laquelle est la bonne? Enfin, voilà, l'État n'a pas à rentrer dans cette qualification-là.
D'accord, quand il y a des mentions de repas sans porc. Oui. Est-ce que ça, c'est pour des motifs religieux?
Oui, indirectement, mais voilà, je sais pas, il peut y avoir des gens qui veulent pas manger de porc aussi. Les repas sans viande, la question des repas sans viande ne se pose pas que pour des motifs religieux. Hein.
Non, mais quand c'est spécifié, par exemple,
oui, indirectement, oui, si vous le voulez. Oui, on peut dire ça comme ça, indirectement, oui. Ça fait partie des marges laissées aux administrations.
Dans les avions, c'est systématique.
Pardon?
Dans les avions, c'est assez systématique.
Oui, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Je pense que ça permet à tout le monde de...
C'est pour ça qu'une des polémiques qui avait été lancée il y a quelques temps était sans objet.
Alors la question se pose de façon beaucoup plus brûlante, en fait, dans les prisons. Parce que, alors là, pour le coup, on est aussi en plein dans l'actualité juridictionnelle. La cour administrative d'appel de Lyon doit rendre un arrêt dans le courant du mois de juillet sur la question de savoir si les détenus doivent pouvoir avoir des repas halal de la part de l'administration. Aujourd'hui, l'équilibre qui a été trouvé par l'administration pénitentiaire, c'est que vous savez, les détenus peuvent cantiner, comme on dit, donc, à accès à une espèce de magasin, de coopérative, où ils peuvent acheter de la nourriture halal. Mais dans la nourriture de droit commun, si je puis m'exprimer ainsi, l'administration ne rentre pas dans ces considérations. Donc ça a l'air des repas sans porc, sans viande. Et il y a un contentieux qui est pendant devant la cour administrative d'Aval de Lyon.
Ce qu'on voit pas ça, c'est que parfois il peut y avoir entre communautés religieuses cette espèce de revendication un peu en escalade, si vous voulez.
Oui, en escalade et puis divergente. Hein, voilà. Est-ce que le halal reconnu par l'un sera le halal reconnu par l'autre? Est-ce que voilà, l'État ne peut pas rentrer dans ces considérations-là? Il se situe en surplomb et lui.
Pour, non, c'est à quoi je pensais que, par exemple, dans certaines économies, pendant les vendredis de carême, par exemple, il y avait des repas sans porc. Pour ceux qui ne voulaient pas de porc les vendredis de carême, il y avait de la dinde. Et, vous voyez, donc ça a créé un peu d'émotion parmi les personnes qui étaient de religion catholique.
Ouais.
Et on se rend compte qu'il y a une espèce de. Bah là, de confrontation, pas de. Alors qu'en fait, c'est plutôt des personnes qui peuvent bien s'entendre, mais par des petites. Par des maladresses, en fait, il y a des.
Alors, les revendications sont infinies, hein, théoriquement.
Oui,
c'est,
ça,
hein.
Ouais.
C'est pour ça qu'il y a un moment où il faut trouver une règle commune qui permette à tout le monde de s'y retrouver à petit peu près. À peu près.
Des applications, par exemple
Quand on pose la question, oui, bien sûr. Bien sûr.
Merci. Justement, votre activité, vous, en tant que bureau des cultes, bureau central des cultes, est-ce qu'il y a une relation directe avec le législateur, en tant que conseiller, en tant que je dirais, carrefour de témoignages ou, est-ce qu'on remonte vers vous certaines choses? Est-ce que, voilà, quel est le lien avec le législateur? Je pense, enfin, il y a aussi d'autres exemples comme Caducie, mais par exemple, je sais que j'avais entendu parler que les producteurs de porc se plaignaient parce qu'il y avait une chute terrible de production de porc, parce que les cantines, pour éradiquer le problème d'avec ou sans porc, on a dit bon, on fait tout sans porc. Donc à l'échelle nationale, ça a une répercussion assez sensible. Voilà, c'est genre, est-ce que c'est le genre de sujet qui peut venir ou...
Alors j'avoue que sur la sujet de la viande de porc, c'est pas venu jusqu'à nous. Et... En même temps, je n'ai pas d'avis à donner sur la question. Sur la question du lien avec le législateur, le bureau des cultes, comme tout bureau d'administration centrale, est au service du ministre. Et donc le lien avec le législateur, c'est le ministre, en fait. Hein. Le gouvernement peut proposer même une large partie de l'initiative parlementaire.
Oui, mais quelque part, le ministre, c'est par vous qu'il a...
Oui, pas que nous, après.
J'imagine que vous préparez des dossiers...
Oui, bien sûr, tout le temps. Bah, alors, des projets de loi sur les sujets religieux, il n'y en a pas tous les jours, hein, puisque c'est un sujet auquel il faut toucher avec prudence et avec beaucoup de discernement et de réflexion.
Mais pas uniquement que sur la sphère publique. Voilà, l'exemple que je donnais, c'est sur les producteurs... privé.
Bah, je ne vois pas comment le législateur pourrait réglementer le marché de la viande de porc. Le législateur, c'est le principe de la liberté de commerce, en fait. Moi, voilà, si les écoles ne veulent pas acheter de viande de porc, voilà, je ne crois pas que le législateur ait besoin de fixer des quotas de porc dans les menus des cantines.
Ouais.
Il y a un moment où voilà, il y a une régulation naturelle et il est peut-être bon que le législateur ne se mêle pas de tout non plus. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Ouais. J'ai une question mais purement pratique et je suis désolé.
Ouais, je t'en prie.
D'abord, je te remercie pour la qualité de ton intervention. Je suis ravi. La seconde, c'est... on travaille
Vous êtes entre marins.
Oui, en plus. Étant arrivé à Jérusalem, j'avais le consul général aussi, qui était un marin.
Ah, bon.
On fait partie d'un groupe qui travaille sur la laïcité. Donc, j'aurais voulu savoir si tu accepterais éventuellement de répondre à... interview écrite, donc...
Bien sûr.
Et puis j'aimerais aussi pouvoir bénéficier des écrits, parce qu'on a de la chance que
tu aies fait la
machine. Donc si tu pouvais nous l'envoyer.
Oui, je vais, après, ça, c'est pas à but public, quoi.
Non, c'est juste pour un groupe de quatre. Limité. Merci. Voilà, tu vois, c'était purement pratique.
Oui, pour les auditeurs c'est de chemin, à ce moment-là.
Et... Je voulais, quand tu étais ministre, monsieur Payon, Vincent Payon, avait proposé que la franc-maçonnerie devienne la religion de la République. Je cite ces mots. Comment est-ce que ça a été reçu, cette phrase-là? Et d'autre part, est-ce que la laïcité qui impose une morale laïque à l'école n'est pas en train de devenir elle-même une religion?
Alors, c'est une question très politique à laquelle un fonctionnaire comme moi n'a pas à répondre. Moi, j'observe juste que, en fait, de mémoire, hein, je ne défends pas M. Payon ni personne, hein, mais de mémoire, ses propos datés d'avant qu'il soit ministre. Et sur la morale laïque, je pense, au cours de mon intervention, avoir évoqué le fait que, notamment au début du 19e, elle n'a jamais été pensée comme étant incompatible avec la morale religieuse, hein, ne serait-ce que parce qu'elle la reprenait pour une bonne partie en la laïcisant. Donc moi je suis convaincu qu'il peut très bien avoir une morale publique, une morale laïque enseignée à l'école, qui ne soit pas du tout antagoniste avec la morale religieuse des élèves, quelle qu'elle soit. Alors après, une fois qu'on m'a dit ça, je crois que la mise en place de l'enseignement de la morale laïque n'est pas encore complètement achevée. Donc on verra bien quels sont les travaux sur la question. Il y a eu un rapport qui avait été rendu à Vincent Payon à l'époque. Et je crois que l'administration de l'éducation nationale est toujours en train d'y réfléchir. On verra bien comment ça se passe. Mais moi, je trouve ça plutôt positif, en tout cas.
Concernant l'islam, Mohamed Ali Bouhar, s'il était là, il m'a sans doute la question. Qui nous explique bien qu'il s'est un peu bien en religion parmi les autres. Que, par exemple, David Boubacar, pour un musulman, n'est que le recteur d'une mosquée du 6e arrondissement. Alors que l'État, enfin, pas en tant que CSM, mais en tant que recteur de la mosquée de Paris, il avait un statut que l'État lui avait donné. Comment les choses se construisent aujourd'hui pour créer ces interlocuteurs sur une religion qui n'a pas de clergé, en tout cas d'après nous en France? Est-ce qu'il y a des initiatives en ce moment, des choses qui se préparent pour, comme il nous le dit lui-même, ils n'existaient pas à l'époque du mandat, à l'époque de Napoléon, à l'époque de la loi de 1905 non plus, enfin tout ça n'était pas dans le débat là-dessus. Donc les choses sont en train de se construire, comment ça finit en fonction de l'islam?
Alors peut-être une remarque liminaire, c'est que l'État ne crée pas d'interlocuteurs, puisqu'il ne reconnaît aucun culte. Donc à partir de là, s'il les crée, ça serait en reconnaître certains plutôt que d'autres.
Alors,
David Boubacar, ce sont des musulmans ? David Boubacar, votre collègue n'a pas tort de dire qu'il est avant tout le recteur d'une mosquée du 5e arrondissement. Hein, mais il est également président du Conseil français du culte musulman. D'ailleurs, il ne le sera plus dans un an. Mais nous, c'est davantage à ce titre qu'il est l'interlocuteur. Alors, le Conseil français du culte musulman, on a effectivement pu à l'époque reprocher à Nicolas Sarkozy de vouloir créer ses interlocuteurs. Ce qui n'était pas entièrement justifié parce que, dans ce qu'il était et dans ce qu'il est toujours, il est un rassemblement de, à peu près, pas toutes, mais à peu près toutes les sensibilités de l'islam de France. Et donc, à ce titre, il est utile, puisqu'il permet d'avoir autour d'une table les principaux représentants des différents courants. Ce qui n'empêche pas qu'il n'est pas l'interlocuteur unique des pouvoirs publics quand des sujets se posent. Hein, si le CFCM ne traite pas tel ou tel sujet et que d'autres veulent le traiter, on travaille avec tout le monde, en fait. Hein, c'est le principe même de la non-reconnaissance des différents cultes. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, il y a une coordination des agences de voyage qui travaillent pour organiser le Hajj, le pèlerinage, qui est venu nous voir et qui nous a dit voilà, on veut un petit peu entreprendre une démarche de qualité pour moraliser un secteur où parfois il y a des errements. On leur a dit très bien, travaillons ensemble. Voilà, on a travaillé avec cette coordination et la semaine dernière a été présentée cette charte de bonne pratique. Bon, voilà. Donc on ne crée pas nos interlocuteurs. C'est quelque chose, c'est vraiment de vivre au quotidien. Hein, c'est-à-dire que moi, à partir du moment où la personne qui demande à me voir n'a pas de problème avec la justice de notre pays, je parle notamment des sectes, moi je vois à peu près tout le monde, alors dans la mesure de mes moyens et de la taille de mes équipes qui sont quand même assez limitées. Donc objectivement, je passe plus de temps avec les catholiques ou avec les musulmans qu'avec les baïs ou avec les. On essaie vraiment de ne pas avoir d'interlocuteurs définis. On prend les interlocuteurs tels qu'ils sont et tels que la réalité religieuse du pays nous les présente.
Combien vous êtes dans le bureau ?
Nous sommes 10. Nous sommes 10, mais alors nous avons quand même des relais dans chaque préfecture.
10, pour nous, c'est un bon chiffre. Ça s'appelle, vous êtes le minyan.
D'accord.
Donc vous pouvez déjà organiser un office déjà.
D'accord.
La seule question, c'est quel culte choisir ?
Ça me plaît. Ça, je ne vous cache pas qu'on m'organise.
Quand vous en reconnaissez aucun,
oui, on les connaît tous. On n'en méconnaît aucun. On n'en reconnaît aucun, mais on n'en méconnaît aucun.
Et vous qui avez fait l'ENA, Est-ce que dans la formation...
C'est parce que j'ai fait de mieux. Hein. C'est parce que j'ai fait de mieux.
Ah, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis.
C'est parce qu'il avait frisé l'excellence d'abord.
Oui, c'est ça.
C'est dur de voler son map.
Ouais. Non, il n'a pas été dans la meilleure école bretonne.
Mais, bon, Léna.
J'ai texté. Aléna, est-ce qu'il y a, je pense notamment aux gens, aux personnes qui maintenant sont préfets, sont confrontées justement aux religions sur le terrain, est-ce que le fait religieux est abordé? Comment est-ce qu'il y a quelque chose, justement, ça rejoint le constat de l'IHEMR, que, comme vous disiez, il y a une pluralité maintenant dans la population. Maintenant, le candidat, entre guillemets, qui arrive pour l'ENA, il n'est pas censé avoir telle ou telle culture religieuse. A priori, il peut partir des zéro, en dehors de la partie culture générale, qu'on peut demander au concours. Mais
bon, l'ENA, c'est compliqué. Hein. Je crois qu'il y a eu 15 réformes depuis la création de l'école. Donc c'est difficile de parler de l'ENA au sens large. Moi, je vous avoue que j'ai pas tellement... À l'ENA, on n'apprend pas grand-chose pour la bonne raison que c'est une école d'application. Dans la conception de Michel Doré, hein, qui l'a créée, c'était pas une école d'enseignement. Donc c'est pas une école où il y a des cours magistraux avec des grands universitaires. C'est pas du tout l'esprit, en fait. C'est une école pratique où on fait des stages, où on fait des notes de synthèse, et donc c'est pas là qu'on reçoit un enseignement. Donc moi, je sais pas ce qui s'est passé dans l'histoire de l'ENA. Moi j'ai assez peu côtoyé le sujet, la laïcité un petit peu, le faire du jeu pas trop. Là, dans mes nouvelles fonctions, j'ai proposé à l'ENA de faire des choses. J'espère qu'on va y arriver. Par contre, en partant du principe que l'ENA est une école d'application, on a proposé à Sciences Po de mettre en place une conférence de méthode sur la laïcité et le fait religieux, qui commence en septembre. Donc voilà, où en 24 heures, j'essaierai de leur expliquer la même chose que ce que j'ai fait en une heure. Mais je pense que c'est là où c'est l'endroit pertinent. Parce que la matrice de la formation de fonctionnaires, c'est pas mal de Sciences Po quand même. Je crois que pour le concours externe, c'est 80% ou 90% des lauréats qui viennent de Sciences Po Paris. Et donc voilà. Et l'ENA, oui, on va essayer de faire des choses avec eux. Donc, voilà. Mais encore une fois, c'est une école d'application. C'est pas du tout une école de formation initiale.
Merci. Encore merci pour votre exposé, parce que ça nous donne, je pense, une lecture assez apaisée de la laïcité. Or, on sent souvent une espèce de tension entre l'état de droit, la façon dont c'est vécu de la jurisprudence et les tensions politiques qui peuvent exister autour de cette question de la laïcité. Donc, je pense que c'est bien pour nous d'avoir cette lecture, enfin, bon, en tout cas, cette lecture historique. Alors, on parle souvent de la divergence de la lecture de la laïcité avec. À la française, et on dit souvent que la laïcité à la française ne s'exporte pas. Et vous avez des relations avec vos interrégions dans d'autres pays, et comment ça se...
Alors très peu, et c'est vrai que c'est un tort, très peu. Je vous parlais d'un de nos projets, là. Je ne sais pas si je vais réussir à le vendre au ministre, mais moi justement, une de mes idées, ça serait, voilà, le sens des décisions qui ont été prises ces derniers jours nous met un peu à l'abri de certains soubresauts du débat politique, mais il aurait pu en être autrement. Et donc moi, une de mes idées, c'était de proposer au ministre de faire un colloque universitaire un peu comparatiste entre ce qui se passe en Belgique, au Canada et en France. Ce qui me paraissait assez intéressant parce que la francophonie nous rassemble, on a des cultures un peu voisines. En même temps, on a des principes d'organisation, des relations entre l'État et les religions qui sont assez différents. Et donc... Tant sur la question des signes religieux dans l'espace public et dans le service public, je pense qu'on aurait des comparaisons fructueuses à faire. Mais non, on n'est pas très bon sur le côté international. Et c'est vrai que nos homologues du ministère des Affaires étrangères, je crois que vous les avez côtoyés, Yves Tessier-Dorfin notamment, le disent eux-mêmes, hein, c'est que jusqu'à maintenant, ils étaient mon homologue au ministère des Affaires étrangères, c'est pas le conseiller pour les affaires religieuses. Moi, je m'appelle d'ailleurs le bureau des cultes. Mais il me disait l'autre jour que cette mission à l'international allait prendre de l'importance et que nos diplomates seraient aussi amenés à expliquer mieux le modèle français. Parce que c'est vrai qu'il est parfois mal compris. Hein,
il est assez mal reçu, parfois.
Oui, parfois, dans certains pays musulmans, pour le dire de façon un peu directe. Hein, alors que je pense, enfin, j'espère vous avoir montré que... la France n'est pas un pays islamophobe, qu'elle fait. Voilà, même si elle impose certaines restrictions à la liberté religieuse, ça se passe dans un cadre très défini, avec des limites très strictes, et que c'est surtout pour permettre le vivre ensemble, puisque c'est ça, avant tout, la laïcité, c'est le vivre ensemble. Je pense qu'il y aura, oui, il y a un effort d'explication plus grand à faire à l'international. Ça, c'est certain. Et non, malheureusement, on n'a pas suffisamment de relations avec nos homologues, si tant est qu'on en est, parce que c'est compliqué. Dans certains pays, c'est plutôt le ministère de l'Intérieur, dans d'autres, le ministère de la Justice. Et dans d'autres, il y a un peu des façons variées. Chaque pays a son modèle, en fait, hein, qui est assez lié à son histoire. Donc, ne serait-ce que définir un réseau des chefs du bureau des cultes, je pense que ça serait assez compliqué, en fait.
On conclut sur ce point. Ok, bah, grand merci,
monsieur. Merci.
Merci à vous.
Alors, c'est permis d'enregistrer, en fait, mais ça, c'est en diffusion interne, hein, à l'Institut.
Okay.
Ça reste entre nous.
Je veux bien quand même le relire, si vous voulez.
Oui.
Je vais vérifier que je n'ai pas dit trop de bêtises.
Ouais.